IHG's pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement. Kane is in the building.
Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Tête de hockey. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de mon co-animateur Raphaël Couterillou. Salut Raph.
Salut Félix.
On est le 12 mars, c'est notre 7e épisode et aujourd'hui, on a le plaisir, le bonheur, la joie de recevoir une première entrevue, un premier joueur, quelqu'un qui a joué pour les Remparts de Québec en 2012-2013 et ensuite a eu un chemin qu'il va nous décrire. C'est Jason Hood. Salut Jason, merci d'être là.
Salut les gars. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ne s'attendaient pas à ce nom-là. C'est un nom moins connu un peu que certains.
Mais on en a parlé un peu sur notre page Instagram que tu as joué avec Nikita Kucherov, Mikhail Grigorenko, Anthony Duclair. On en a une coupe dans justement ce roster-là de 2012-2013. Tu pourras nous jaser de ces années que tu as joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais on va commencer par la base. Tu viens d'où, puis comment as-tu commencé à jouer au hockey?
Ben, je pense que j'étais prêt dès la naissance à s'aligner vers ça, je dirais.
Comme on dit, t'es né avec des patins.
Ben, je voulais pas le dire, mais c'est pas mal ça. Uh-huh. Écoute, je viens de la Rive-Sud de Montréal, j'ai un grand frère de 4 ans plus vieux que moi qui patinait déjà quand je suis né.
Okay.
Fait que j'ai suivi dans les arénas là, quand j'étais tout petit, puis... Mm-hmm. C'est arrivé. Écoute, j'ai commencé même à faire du patinage de vitesse avant de pouvoir jouer au hockey parce que je voulais trop jouer et mes parents ne pouvaient pas me retenir. Fait que j'ai fait du patinage de vitesse puis dès la première année, je pouvais jouer. Là, j'ai commencé mon hockey mineur à Sainte-Julie sur la Rive-Sud de Montréal.
Ouais.
J'ai gravi les échelons à partir de là. Puis...
Est-ce que dès le départ, t'étais comme dans les calibres les plus élevés ou comment ça a commencé? Là, tu dis que tu as joué à Sainte-Julie, mais ça a commencé à Tombe, j'imagine? Ou
j'ai commencé Mag 1, là, Mag de 1, départ, ouais. J'ai commencé. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas vraiment de catégorie.
Non, ouais.
Mais pour donner, mettons, une petite idée, après ma première année, normalement, on tombait Mag 2 dans ce temps-là.
Ouais.
On m'a comme dit, on va aller Mag 3, mon homme, parce que ça va plutôt bien. Fait que j'ai joué 2 ans Mag 3 parce que je pouvais pas jouer de novice tout de suite après. Fait qu'ils m'ont fait jouer Mag 3 2 années. Après ça, là, à partir de novice, à Tombe, puis oui, ça a tout le temps été les plus grosses catégories, là, novice A, puis oui, à Tombe, ben c'était 2B dans le temps, il y avait
c'est
pas
ça,
2A.
Ouais.
Et puis oui, 2A après ça. Fait que à partir de là, j'ai gravi les échelons jusqu'à Midget Espoir. Ma première année Midget, j'ai joué Midget Espoir avec les Grands-Ducs de Mortagne.
Okay.
Après ça, j'ai joué Midget 3 avec les Gaulois du Collège Antoine Giroir qui est à Saint-Hyacinthe.
Okay.
Puis après mon année avec les Gaulois, là, j'ai été repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda.
C'est ça. Puis c'est quand, tu sais, tu l'as mentionné un petit peu, mais c'est-tu rendu Midget Espoir que là, la mentalité, c'est comme, OK, tu sais, j'ai peut-être une chance de me rendre plus loin, j'ai peut-être une chance de comme gravir les échelons, tu sais, c'est-tu avancé un peu? Comment ça s'est passé un petit peu, non seulement dans ta tête, mais tu sais, aussi avec ta famille, tu sais, c'est quand même des sacrifices puis du temps à mettre là-dessus, tu sais, c'est comment que ça s'est passé un peu, ce processus-là?
Ouais, c'est dur à dire, tu sais, veux pas, comme je disais, dans mes premières années, là, vraiment, quand j'étais jeune, bon, on se cachera pas, là, j'ai toujours été dominant, mm-hmm. Puis là, plus ça va, ben plus l'entonnoir commence déjà à se refermer. Là, mm-hmm. Même puis oui, Bantam, ça commence à être plus dur. Fait que oui, j'ai toujours été un bon joueur, je dirais, mais même rendu, puis oui, Bantam, j'étais plus dominant. Là, okay. Fait que est-ce qu'à ce moment-là, je me disais, écoute, let's go, on y va all-in? Non. Mm-hmm. Puis mes parents ont toujours été, ils m'ont toujours supporté, mais je trouve qu'ils ont vraiment fait de quoi d'incroyable, que c'est comme ça que je vais amener à mes petits gars aussi, c'est du plaisir.
Là. Absolument.
T'sais, c'est que du plaisir. Puis oui, on va t'encourager, on va t'aider, mais c'est pas trop. T'sais, malheureusement, je trouve que présentement, on en voit souvent des histoires que c'est comme too much dans le hockey.
Une pression.
Moi, c'est vraiment pas ça. Je faisais tous les sports que je pouvais. Ouais. Fait que je m'amusais là-dedans. Puis là, après ça, là, c'est sûr que rendu à midget espoir, midget 3, tu dis, écoute, j'ai mes chances, je vais essayer le plus que je peux. Puis finalement, j'ai été repêché, puis j'ai rendu là, j'ai tout donné.
Fait que c'est plus un go with the flow, dans le fond. C'est plus on y va avec le process, puis si ça y va, ça y va. Mais c'est ça que je comprends un petit peu. Là. C'était plus, tu sais, il n'y avait pas vraiment de pression, c'était plus toi, tu y allais comme tu voulais, puis le hockey t'amènera ou le hockey t'amènera, tu sais.
Exact. Personnellement, ça a vraiment été ça. Puis, tu sais, oui, j'ai fait le sport études hockey, puis c'est parce que j'aimais ça.
Ouais.
Je le voulais, puis je le demandais, c'était ça que je voulais. J'adore le hockey encore aujourd'hui, j'ai toujours aimé ça. Fait que non, ça n'a pas été jamais trop de pression, puis juste le hockey non plus, c'est quelque chose que je voulais vraiment pas.
Je veux mettre un peu de contexte parce que on parle de ton parcours, justement, on dit que t'es un joueur dominant, t'es un joueur qui joue à l'aile gauche, qui a joué à l'aile gauche avec les Remparts de Québec. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que t'as eu plusieurs positions? Est-ce que tu t'es dit, moi, c'est juste ça, ou t'en faisais plusieurs? Comment ça fonctionnait?
La seule position que j'ai pas faite, c'est goaler.
Oh.
Fait que non, c'est ça, j'ai été plus étiqueté ailier gauche, là, okay. Mais j'étais dans mes forces au hockey, je dirais, c'est ma polyvalence. Là.
Ouais.
Fait que aile gauche, aile droite, des fois au centre. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup au centre. Quand j'ai été plus vieux, ça a été gauche-droite. Puis même que j'ai joué une année, ma première année bantam, j'ai joué défenseur.
Okay.
Puis même junior, là, j'ai eu comme un stretch de, je dirais peut-être un 10-15 games en fin de saison, ma deuxième année à Rouen, que j'ai joué à défense.
OK, quand même.
Puis que j'ai joué les playoffs à défense aussi.
Ouais.
Fait qu'il faut croire que ça allait quand même bien. Là.
C'est rare que tu vois ça rendu à ce niveau-là, que les joueurs ils changent de position comme ça. Ouais. Fait que c'est en effet, c'est être polyvalent.
C'était sur un vite, là, c'était sur un road trip. On jouait, c'était Chicoutimi, Rimouski, je me trompe pas. Puis on se ramasse plein de blessures back-à-back.
Ouais.
Fait que là, c'était Tourigny qui coachait. Il disait, hey, Dieu, on va te mettre en défense. Tu sais, j'étais un attaquant défensif. Fait qu'on va t'essayer à défense. Let's go à défense. Fini le road trip à défense. Hey, ça a bien été. On va te garder là. On est là. On est revenu à Rouen. Là. On a du monde si on a besoin. OK. Finalement, j'ai fini la saison.
Ah, c'est
on parle d'un joueur polyvalent. Est-ce que, vite comme ça, tu t'es fait comparer à des joueurs où il y a des joueurs que toi, tu t'identifiais, tu disais, je veux un peu, pas nécessairement reproduire son style de jeu, mais comme m'inspirer un peu de ce joueur-là?
Je me souviens, c'est un nom peut-être voyons. Mais dans le temps, là, quand j'ai joué, mettons, quand j'ai commencé à Rouen, un gars que je m'identifiais, c'était Burroughs, Alex Burroughs, okay, qui jouait à Vancouver dans le temps.
Qui est maintenant rendu coach pour les Canadiens.
Exact.
Ben, assistant coach.
C'est un gars avec de la grit, qui jouait, il jouait avec les frères Sedin, puis j'adorais ça. Il pouvait faire ce que tu veux sur la glace. Je le savais que j'étais pas un high skills guy. Là.
Okay.
Fait que je savais qu'il fallait que j'aille travailler dans les coins, qu'il fallait que j'aille piocher, puis bloquer des shots. Fait que c'était un peu dans ce style-là que je voulais m'aligner.
Okay.
Ah, c'est cool. Donc, tu l'as mentionné, après ton année midget 3A, tu te fais repêcher par les Huskies. Tu as passé 2 ans avec les Huskies. Tu sais, comment t'as vécu ça? Rouen, c'est quand même un petit bout. Puis, juste le repêchage, comment ça s'est passé?
Ben, moi, j'aurais le goût que tu nous racontes ton repêchage. Ouais, comment exact. Tu l'as appris? T'étais-tu sur place? Comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai eu la chance que c'était un repêchage à Drummondville. Okay. Fait que j'habitais encore Sainte-Julie dans ce temps-là. Fait que je suis allé.
Pas trop loin.
C'était pas trop loin. Je suis allé. Légère déception, je vais le dire. J'ai été repêché quand même en 10e ronde par okay. les Huskies. Mm-hmm. Pas parce que c'était l'équipe, là, rendu là, j'en ouais. ça me dérangeait vraiment pas.
Tu voulais entendre ton nom.
Exact, exact. Mm-hmm. Mais j'espérais sortir avant ça quand même. Ouais. Je ferais pas de cachette. Fait que là, sortir 10e ronde, ça a été quand même décevant, puis un peu une remise en question parce que.
OK.
10 rondes, là, c'est loin. Mm-hmm. Fait que ça veut
t'avais
dire qu'il y a 9 rondes.
T'avais-tu en tête de te dire, OK, peut-être dans les 5 premières ou t'avais. T'avais pas d'attente, puis c'est juste que tu trouvais ça long, ou comment t'as vu ça?
Non, ben, tu sais, je pense que ça a changé depuis, là, mais avant, les 5 premières rondes, c'était les joueurs de 15 ans qui se faisaient repêcher okay. en majorité. Oui, ouais. il y avait certains joueurs de 16 ans qui, ont, mm-hmm. qui avaient été vraiment dominants. Puis à partir ouais. de la 6e ronde, là, tu pouvais te faire repêcher en tant que 16 ans. Ils pouvaient plus repêcher de 15 ans, c'est-à-dire, ouais. fait que là, ils repêchaient okay. plus les gars de 16 ans.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, je m'attendais pas à sortir dans les 6 premières rondes, donc les 5 premières qui peuvent repêcher des 15 ans ouais. et la première ronde, mettons, des ouais, 16 okay. ans. Mm-hmm. Puis avec là, je me disais, mettons un 8. Là. Je trouvais mm-hmm. que c'était un beau mm-hmm. chiffre. Okay. Là, ça fitait bien. Fait que là, 8 passes, 9 passes. Là, câline, les estrades commencent à être vides, là, rendus à 10. Il y en a pas mal qui ont pas fait le voyage.
Ouais.
Là.
Ouais, ouais.
Fait que c'est sûr que sur le coup, c'était décevant, mais c'est sûr. Au final, ça a fonctionné quand même.
Exact.
Là, tu te fais repêcher. Comment ça se passe, le processus, pour dire j'arrive à Rouen, je m'installe, mm-hmm. c'est vrai, là, je joue dans la Légion majeure du Québec. T'sais.
Ça a été long.
Ouais.
Ça a été long
c'est
quand
loin,
même.
Là-bas parce que, aussi, hein?
Ouais, c'est loin. De chez nous, c'était un bon 8 heures. Mm. Tu sais, là, t'es un petit bonhomme de 16 ans.
Ouais.
Tu sais, dans ce temps-là, t'as l'impression que t'es vieux, là. Mais je suis rendu à 29, je te confirme qu'à 16, j'étais pas vieux, là.
Ouais.
Fait que là, je me fais repêcher à 16, je m'en vais au camp, je tombe à 17 ans au camp, je vais jouer mon année 17 ans, puis je vais être ben honnête, là, je m'en vais pas là en pensant que je vais rester là.
Mmh. Ouais, ouais.
Fait que je m'en vais là, écoute, je fais le camp, je m'entraîne tout l'été pour ça, je dis, gars, c'est ma chance, c'est là.
Ouais, c'est parce que aussi, Stano, tu vas là-bas, puis tu connais personne, tu fais ça 100% pour ça.
C'est ça, mmh. puis je me dis, gars, j'ai un coup à donner, c'est cette année, si okay. ça marche pas cette année, ben gars, ce sera pas l'année prochaine, fait que je vais all-in cette année, bonne année d'entraînement, bon été d'entraînement, c'est-à-dire, j'arrive mmh. là, je donne tout. Faut comprendre que dans cette année-là, Rouen, il venait d'avoir une année qu'il avait essayé d'aller au bout. Donc, avec le cyclique du junior major, ouais, on ouais, se ramasse ouais. avec un, pas beaucoup de vétérans puis beaucoup d'espace pour des recrues.
Ce que tu parles, dans le fond, c'est l'espèce de cycle qu'on voit dans la Ligue nationale qui prend des fois 4-5 ans. Dans la LHMQ, dirais-tu que c'est moins long, plus long?
Eh hey boy!
C'est
dur à dire. Je dirais que c'est encore plus court là, okay. dans la Ligue junior major, justement, à cause des âges que les gars, tu sais, tu peux pas.
À partir d'un certain âge, tu sors de la
c'est
Ligue.
C'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, c'était l'année qu'ils ont essayé vraiment d'aller au bout. J'arrive là, tu sais, il y avait quoi, 4-5 vétérans, peut-être. Okay. Fait ouais, que, bon.
Tu sais, la réalité aussi, c'est que dans des ligues comme ça, il y a beaucoup de gars qui sont repêchés, qui sont vraiment bons, qui passent à l'autre niveau. Fait que même s'ils n'ont pas 20 ans, okay, à 18-19 ouais. ans, des fois, ils montent, tu sais. Fait ouais. que ça fait que, comme tu dis, il y a beaucoup d'espace. Puis là, j'imagine que tu t'en vas sur le fait que, vu qu'il y avait beaucoup d'espace, tu réussis à faire l'alignement.
Ouais, exact. J'ai vraiment, tu sais, j'ai eu un bon camp. J'étais arrivé là-bas en forme, j'ai eu un bon camp, honnêtement, je me suis surpris, puis j'ai surpris tout le monde là-bas. Là. Tu sais, avec le repêchage, comme j'ai été repêché en 10e ronde, mais j'ai fait l'équipe avant des gars qui ont été repêchés en 9e ronde, en 8e ronde, en 7e ronde. Ouais. Tous ces gars-là, je les ai comme dépassés au camp.
Comme quoi, le chiffre, finalement, est pas si important.
Exact. Ouais. Oui, sur le coup, c'est une déception, mais la semaine d'après, tu passes à d'autres choses, tu ouais. fais ton entraînement, puis c'est parti.
Puis on le voit au niveau supérieur aussi, tu sais, le but, c'est juste de te faire drafter, rendu là où tu te fais drafter, ça change ouais. absolument rien. On en voit tout le temps des gars qui se font repêcher dans les rondes plus loin, puis qui performent mieux que des gars qui se font repêcher avant. Tu sais, c'est juste d'avoir ta chance.
Je veux juste rappeler que vous écoutez Tête d'Hockey, qu'on est avec Jason Hood, un ancien joueur des Remparts de Québec qui s'est fait repêcher par les Huskies de Rouyn-Noranda. Et on est rendu là, justement, dans ta carrière où tu arrives à Rouyn, tu fais l'équipe, la première, tu sors du camp et tu fais l'équipe. Comment ça se passe? C'est justement la dynamique, t'as parlé d'André Tourigny, cette nouvelle vie-là, comment tu l'as, comment t'as pris ça finalement d'habiter là à temps plein, puis je suppose on en a parlé tantôt du voyagement aussi, ça l'occupe beaucoup de temps dans ton horaire, comment c'était?
Ouais, c'est sûr que c'est une grosse étape dans ma vie, je dirais, puis tu sais, comme je disais, j'ai commencé à 17 ans là-bas, mais tu vieillis vitesse grand V, là. Tu sais, ah, tu ben t'adaptes, oui. Puis là, tu te ramasses en famille de pension.
Ouais.
Et tu connais personne là-bas. Tu sais, j'avais des gars que je savais c'était qui en jouant contre, ouais. Un peu. Fait que tu t'apprends tous les jours. T'as Tourigny qui est là avec son coaching staff, que eux, l'année d'avant, ils ont une équipe incroyable. Ils se ramassent avec une équipe que c'est que ça des fait recrues. Changer, fait qu'on ouais. Change un peu la...
La mentalité de coaching.
Oui, la mentalité, sauf que, tu sais, ils veulent garder aussi l'aspect qu'il y avait une équipe gagnante. Ils veulent garder cette mentalité. Exact, l'identité pour les nouveaux qui arrivent, que là, ça va peut-être moins bien au début.
Mm-hmm.
Fait que ça a été de l'adaptation, autant au niveau scolaire qu'au hockey. Tu sais, c'est beaucoup, là. Finalement, tu t'en vas à l'école là-bas.
C'est vrai.
OK, t'étudies dans quoi? Mm. Je sais pas, là. T'as peur, là.
Non, c'est sûr.
Tu sais, dans quoi je peux étudier? Qu'est-ce que je peux faire? Le voyagement. Rouen, c'est une des extrémités du territoire de la
ouais.
GMQ.
Ouais.
Et là, tu te ramasses quand tu t'en vas jouer au Cap-Breton. Attache ta
dessus.
Parce que c'est long, puis tu manques beaucoup d'écoles.
Ouais.
Mm-hmm. C'est de jongler là-dedans qui est difficile.
Ouais, c'est d'ailleurs une question qu'on avait pour toi, tu sais, au niveau des études. Comment ça se passe? Comment tu. T'étudies-tu dans l'autobus, justement, en allant à Cap-Breton? Tu sais, c'est quoi? La réalité des études pour les joueurs qui jouent dans les régions majeures, tu sais, parce que c'est pas tous les joueurs qui jouent dans les régions majeures qui vont aller faire des millions dans la Ligue nationale, tu sais, je veux dire, c'est une minorité. Fait comment ces gars-là, ils se préparent pour le après-hockey, tu sais?
C'est beaucoup de discipline. C'est beaucoup de discipline à demander pour des gars de 17, 18, même 19 ans que, Caroline, c'est pas évident, là.
Mm-hmm.
Fait que, au début, si tu t'adaptes, t'essaies de trouver ta façon un peu à toi. Tu sais, je me souviens, là, je fais fast forward quand je jouais avec les Remparts, j'avais Marc-Antoine Carrier qui étudie en médecine. Et boy, j'étais pas là, là. J'étais pas là pantoute. Fait que, tu sais, moi, là, au début, c'est cours de base au cégep. On commençait par ça, là, mm-hmm. Parce qu'on, puis à travers tout ça, on va s'adapter dans notre nouvelle réalité.
Ouais.
Fait qu'au début, c'est tous mes cours de base au cégep. C'était 4 cours par session. Puis honnêtement, oui, il y en a qui peuvent en faire plus. C'est bien correct. J'ai jamais été incroyable à l'école. Fait que on est allé avec la base, pis on a commencé comme ça, pis ça a été parfait.
Ben je comprends, tu sais, puis je l'imagine, tu sais, j'ai jamais joué dans la Ligue majeure du Québec, mais je confirme qu'au secondaire, tu sais, il y a des distractions qui font que t'as pas nécessairement le goût d'étudier, puis tu sais, là t'es sur la route, tu vis le rêve si on veut, là, tu sais, living the dream, le hockey dream si on veut, tu sais, puis d'être obligé de prendre du temps pour focusser sur tes études, c'est sûr que ça doit prendre beaucoup de discipline, là, c'est certain.
J'imagine qu'il y a une relation spéciale avec tes professeurs aussi, parce que comme tu le dis, tu manques beaucoup d'école, donc faut que tu t'adaptes. Comment ça c'était à ce niveau-là?
Je suis pas prêt à dire ça, non. Ben, relation spéciale, en fait, tu sais, pour eux, en tout cas, je vais parler pour moi, là, ouais. Quand j'étais au cégep, autant à Rouen qu'à Québec, pour eux, tu es un élève comme un autre.
C'est ça.
Fait que tu manques des cours, tu manques au cégep, il y a tout le temps du monde qui manque des cours.
Il y a un genre de déclic de « Ah, ben lui, il a un horaire atypique, fait que peut-être qu'on peut plus l'accommoder qu'un autre élève. » C'est vraiment, eux, si tu manques un cours, c'est manqué, puis that's it.
T'sais, j'imagine qu'il y a une entente du fait que quand je manque des cours, ben je suis pas pénalisé.
Okay.
Mais non, tu fais le même cours que toutes les autres. Puis c'est à toi de prendre le temps qu'il faut pour suivre la gang.
Bon, c'est intéressant. Donc là, tu mentionnes justement que tu joues à Rouen. C'est des années un petit peu de rebuild, si on veut, de reconstruction pour l'organisation.
Comment ça s'est terminé?
Comment ça s'est terminé? Ensuite de ça, tu t'en vas vers les Remparts. T'sais. Je veux dire, ça doit être le fun de te dire, crime, je m'en viens à Québec. Je joue au Colisée Pepsi. C'était pas le centre Vidéotron, si je me trompe pas, à cette époque-là. C'était encore le Colisée. Donc, tu sais, comment tu vis cette transition-là? Comment ça s'est passé un petit peu de ton départ de Rouen vers Québec, puis les 2 années qui ont suivi pour toi là, à Québec?
Ouais, fait que dans le fond, j'ai joué 2 ans complètes avec les Huskies. Je me suis présenté ma 3e année au camp d'entraînement des Huskies, puis c'est pendant le camp que je me suis fait échanger au Remparts. Je dirais que pour m'aligner vers ma 3e année avec les Huskies, on s'alignait avec un meilleur club que les deux autres.
Mm-hmm.
Fait que sur le coup d'être échangé un peu quand le rebuild, si on veut, il est comme presque fini, là, on s'aligne pour avoir un pas pire club. Sur le coup, j'ai comme fait. Pourquoi? Tu sais, là, je vais avoir 19 ans, c'est supposé d'être dans mes meilleures années juniors. Finalement, là, quand André Tourigny m'a annoncé l'échange puis qu'il m'a dit que c'était pour Québec, ben, je veux pas, j'étais très, très content.
On s'en cachera
pas. Puis même lui, là, quand il m'a annoncé l'échange, il savait là, que je serais content.
Mm-hmm.
Puis Roy et Tourigny ont un bel historique ensemble. Ils font souvent des échanges ensemble. Fait que je me suis en allé à Québec dans une très bonne équipe, là, dans une très bonne équipe dans cette année-là. Fait que je savais aussi que Québec allait être bon cette année-là. Fait que j'étais vraiment, vraiment content de m'en aller là.
Comment ça se passe? Parce qu'on en parlait la semaine dernière, on parlait de la date limite des échanges, puis qu'il y a plein de monde qui change d'adresse. Comment ça se passe de passer une saison avec une équipe, puis l'autre saison d'après, tu sais, est-ce que il y a comment ça se passe d'affronter l'équipe puis de aussi vouloir gagner avec une autre équipe, ce sentiment-là de changer d'adresse, comment tu l'as ressenti?
Le sentiment d'appartenance, il se fait très rapidement. Je dirais aussitôt que tu changes d'équipe, en tout cas personnellement, quand je me suis fait échanger au Rempart, tu tombes avec les Remparts puis t'es all-in avec eux autres. T'sais, tu connais pas un gars dans la chambre, mais c'est ton équipe, puis tu vas tout faire pour t'ébauder dans la chambre, même si t'es connais pas.
Okay.
Puis veux pas, toutes les games sont importantes, mais quand tu joues contre ton ancienne équipe, là,
ça fait un petit quelque chose de spécial.
C'est incroyable. C'est pour de vrai, c'est vraiment spécial. Puis le pire cette année-là, c'est qu'on a perdu contre Rouen en playoff.
Ah ben,
celle-là, elle avait été dure.
Mais Félix l'a mentionné, mais oui, tu sais, jouer pour les Remparts, une équipe qui a beaucoup de joueurs qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, on regarde jouer avec Adam Ernie, Mikhail Grigorenko, Anthony Duclair. Tu sais, il y a beaucoup de gars là-dedans, même Kucherov, là, beaucoup de gars là-dedans qui se sont rendus au niveau supérieur. Comment c'est de jouer avec des gars, tu sais, qui ont un niveau de talent comme ça, puis comment ça s'est passé un petit peu les deux années à Québec au niveau justement là, non seulement de la compétition mais du classement, tu sais, qu'est-ce que avez-vous fait des dommages en play-off, tu sais, comment ça s'est passé?
En play-off, ben comme je viens de dire, on a perdu contre Rouen en deuxième ronde. Ça a été très décevant parce qu'il y a une bonne partie de l'année, là, on était classé meilleure équipe au Canada.
Mm-hmm.
Ça allait super bien. Puis comme tu as dit, là, Grigorenko venait d'être repêché à Buffalo.
Mm-hmm.
Fait que là, lui va jouer une coupe de game à Buffalo. Finalement, il redescend avec nous. Quand il redescend avec nous, c'est un gars de la Ligue nationale. Mais il jouait comme un gars de la Ligue nationale.
Ouais,
c'était
exactement.
Impressionnant. Fait que là, tu y crois, là, tu dis, crème, on peut aller jusqu'au bout, puis on a l'équipe pour. Mm-hmm. Là, tu sais, t'as nommé les gars, on avait un sacré line-up, puis même des gars qu'aujourd'hui jouent plus ou jouent ailleurs,
ouais.
Qu'on avait vraiment une bonne équipe là, complète, autant défensive que d'un but. Tu sais, c'était François Brassard dans le temps, mm-hmm. Puis il joue encore dans la Ligue américaine. Fait que on avait vraiment un bon line-up. Ça a été décevant, mais le fait de côtoyer des gars comme ça, c'est quelque chose que, sur le coup, je dirais, tu t'en rends pas trop compte. Là.
Parce que tu les vois comme n'importe qui.
Absolument. Tu sais, Grigorenko, là, il est rendu dans la KHL, mais je veux dire, il était assis à côté de moi dans la chambre, là, Grigo, puis c'était un de mes meilleurs potes là, dans l'équipe.
Ouais.
Puis tu sais, même après ma carrière junior, j'y reparlais souvent, puis je le voyais encore. Là, ouais. C'est sûr, ça fait plus longtemps, fait qu'on a perdu la connexion un peu.
Il est à l'autre bout du monde aussi.
Ouais, il est rendu en
c'est moins évident. Ah non, c'est vraiment cool ça. T'as-tu des petites histoires ou des trucs intéressants à dire sur ces gars-là, tu sais, qui sont quand même le fun, tu sais?
Ben, mettons, concrètement, c'est quoi vous voulez savoir?
Non, mais, tu sais, tu parlais de Grigorenko, tu sais, tu disais que, tu sais, t'étais assis à côté de lui, tu sais, c'était un de tes bons amis en dehors de la glace, tu sais. Qu'est-ce que tu voyais pour lui dans le futur, tu sais? Tu pensais-tu vraiment que c'était quelqu'un qui allait être fort au prochain niveau, tu sais?
Ah, Grigo, je cacherais pas que j'étais un peu déçu de comment ça s'est terminé parce que.
Il s'est fait repêcher tellement haut.
Ouais, ouais.
Autant qu'il s'est fait repêcher haut, qu'il était quand même dominant junior, puis que, tu sais, là, je le regardais jouer après, puis tu sais, je veux pas le rabaisser non plus.
Mais non,
là.
Mais non.
On s'excuse s'il nous écoute, en tout cas.
Ouais, il comprendra pas, moi.
Ouais, c'est ça.
Non, mais tu sais, il était tellement bon, il était gros, il avait toutes les skills du monde.
Ouais.
Pis là, tu sais, tu vois, là, mais t'sais, ça prouve aussi comment que le step, il est gros, là.
Absolument. Ça, c'est une question que je veux te laisser finir aussi.
Ben, c'est là-dessus, je m'en viens. Le step, tu sais, j'ai jamais joué une game proche de ce niveau-là, là, on se le cachera pas. Mais de voir qu'un gars comme Grigorenko, qui était à côté de moi, qui était dominant dans la Ligue junior majeure du Québec, pis qui est pas capable d'arriver à être juste un bon joueur établi dans la Ligue nationale, tu sais, pour moi, ça n'en dit pour beaucoup.
Ouais, c'est rough.
Tu sais, c'est pas une question de talent, là, qui manquait, là, on s'en cachera pas. C'est, tu sais, certains joueurs vont trouver leur façon de se démarquer, tu sais. On pense, mettons, à Dano, à Gourde, des gars de même, que oui,
ils ont trouvé leur rôle.
C'est
exactement.
Ça, tu sais, j'ai joué contre, puis j'ai joué avec Grigo, puis tu sais, tu m'aurais demandé, il y a 10 ans, lequel est le meilleur, ben là, ça se compare pas. Puis là, finalement, Dano, Gourde, ont des carrières incroyables dans la Ligue nationale, puis Grigo, ben, ça a moins bien
été. Je veux dire, Grigorenko est quand même 50 points en 60 games cette année dans KHL. La KHL, c'est un niveau de compétition assez élevé. Je veux dire, je comprends que c'est pas la Ligue nationale, mais c'est la deuxième meilleure ligue au monde pareil. Fait que je veux dire, c'est tout un joueur de hockey pareil, mais exact. C'est fou comment le gap.
C'est ça.
Et là, tu sais.
Ça prouve tellement comment que la Ligue nationale, le step est haut.
C'est
là.
Ça. Puis ça m'amène à te demander, tu sais, selon toi, c'est quoi qui fait la différence pour les joueurs? Tu sais, c'est quoi l'attrait le plus important pour un joueur de hockey qui fait qu'il passe à un niveau supérieur? Puis là, je le sais que ça peut être subjectif, mais tu sais, c'est-tu l'aspect du patin? C'est-tu la tête de. Tu sais, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est-tu la tête de hockey? Tu sais, c'est-tu le hockey IQ? C'est quoi, selon toi? C'est-tu l'éthique de travail? Tu sais, c'est. Selon toi, c'est quoi qui fait qu'un gars va passer au niveau supérieur?
Puis est-ce que ça peut être de la chance que tu es dans une organisation avec un certain roster ou comment tu l'expliques?
C'est sûr que tu peux avoir un certain timing.
Ouais.
Tu sais, mettons, là, vite de même, si j'avais pas été repêché à Rouen, probablement que j'aurais pas joué junior.
Ouais.
Tu sais, on s'entend, la même année, je me fais repêcher dans une équipe qui aspire aux grands honneurs l'année d'après, ils ont pas de place dans le line-up.
C'est ça.
Fait que oui, il y a cet aspect-là un peu. Mais tu sais, ça peut pas juste être ça non plus. À la limite, si t'as de la chance un peu, tu vas jouer un peu, mais après ça, tu vas te faire tasser. Parce que tu sais, je vais y aller avec un bon vieux cliché, là, l'éthique de travail, là, c'est ça. Là. C'est ça, tu sais. Je pense que c'est un peu cet aspect-là qui a fait défaut à certains gars ultra talentueux. Qui à un moment donné, tu dis, voyons, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ben, ils ont pas la désir que je reprends des gars comme Dano puis Gould qui sont peut-être un peu moins talentueux. Mais qui arrête jamais de travailler autant à l'entraînement, autant que dans le gym, autant que dans une game. Tu sais, tu pourras jamais matcher à deux talents égales s'il y en a un qui se traîne les bottines, ben l'autre à côté, oublie ça. Hein.
Puis tu sais, c'est des gars qui acceptent leur rôle aussi, tu sais, je veux dire, j'imagine que les gars qui, comme tu dis, qui sont talentueux, puis c'est des gars de top 6, tu sais, des gars de skill. Quand à un moment donné, t'as la réalisation que tu seras peut-être pas ça à ce niveau-là, c'est peut-être un coup à l'ego de dire, OK, tu sais, moi, je peux me reformer comme un gars qui va jouer dans le bottom six, qui va être versatile, justement, comme tu dis, un gars qui est polyvalent. Oui, je suis un gars talentueux, mais clairement que ça marche pas au niveau supérieur. Fait que, tu sais, je vais essayer d'être un joueur de troisième ligne. Tu sais, des fois, je peux slotter sur le deuxième powerplay.
Ben, c'est ça. T'sais, quand que t'as un rôle particulier, tu peux aller sur, justement, l'avantage numérique.
Exact.
Ou tu peux te ramasser sur un premier trio parce qu'ils ont besoin d'un joueur de plus mais moi je veux parce que tu sais je pense que je vais nommer cet exemple là je vais le dire Jonathan Drouin dans le junior il était incroyable il patinait comme on voit McDavid en ce moment dans la Ligue nationale puis on dirait que oui il y a eu une longue histoire avec Jonathan Drouin on fera pas toute son historique mais il a pas été capable d'avoir le même rôle ou la même aisance, je dirais, que dans la Ligue junior. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Des fois, il faut que tu prennes une place que tu pensais peut-être pas avoir au départ. Mais est-ce que tu penses que dans la majorité des cas, ceux qui sont très forts dans les ligues plus juniors vont être capables de répéter ça dans la Ligue nationale ou c'est moins facile que ça d'avoir les mêmes performances?
Mais je dirais faut que les gars, en général, aient vécu un peu d'adversité.
OK.
Tu sais, je vais m'excuser à Jonathan s'il nous écoute. Là, pis,
on moi, s'excuse
j'ai joué contre, là, puis avec McKinnon, là, c'était plate. Là. On va se dire c'était pas le fun de jouer contre eux autres. Là.
Ouais.
Ah, c'est
pis,
ça.
Puis, tu sais, moi, comme je reviens un peu, j'étais un gars défensif, polyvalent, puis moi, je jouais ça à 3, puis je jouais contre McKinnon puis Drouin.
Okay.
Puis j'avais pas de plaisir.
Ouais.
Mais tu sais, Joe, Jonathan, là, il était repêché troisième overall.
Ouais.
Junior était repêché ultra haut aussi. Il a joué tout de suite junior. Il est arrivé junior, était dominant dès le match numéro 1. Puis là, il est arrivé Ligue nationale, fait face à de l'adversité. Il était renvoyé dans la Ligue américaine, il était remonté, il était dans un excellent club.
Ouais.
Il y avait moins de place un peu sur le power play. Il y avait, tu sais. Juge pas, mais Joe, est-ce qu'il y a eu autant d'adversité que certains gars? Peut-être pas. Puis est-ce qu'à ce moment-là, quand il y a eu de l'adversité, ben c'est là que tu vois comment que tu vas réagir. Si t'en as jamais eu, tu le sais pas comment tu vas réagir. Tu peux être le gars le plus talentueux au monde. si ça te tente juste pas, c'est bien correct.
Puis encore une fois, ça va dans le même sens que ce que tu disais, si t'as jamais eu d'adversité, t'as jamais appris à peut-être travailler fort, faire l'effort de plus, mais si t'as connu ça, ben là, après ça, tu peux être comme tu me nommais Dano puis Gourde, je pense que c'est des bons exemples de ténacité.
Exactement.
C'est ça, tu sais, puis tu sais, moi, Jonathan Drouin, c'est un mystère dans ma tête, là, tu sais. Tu regardes son statline, là, tu sais, je veux dire, première saison dans la Ligue nationale, tu sais, pas loin de 35 points en 70 games pour une saison recrue, ça a du bon sens. Ouais. 55 points la saison d'après avec Tampa. Puis là, il arrive à Montréal, tu sais, à 20-21. Puis là, ça s'écroule. Puis
là,
moi,
j'ai le bruit de vite qui casse dans ma tête.
Moi, je suis convaincu que jouer à Montréal,
dans
c'est...
Dans ses premières années à Montréal, je pense qu'il y a quand même des saisons pas si...
Absolument. Pas. Première saison, 46 points en 77 games. Deuxième saison, 53 points en 81 matchs. T'sais. C'est un jeune joueur. Puis moi, je pense vraiment que de jouer à Montréal... Ça a eu un impact négatif pour...
Je pense que, malheureusement, le temps file puis il va falloir finir là-dessus. Mais,
si ça tente de rester, moi, j'ai encore des questions. Le site du temps, on peut le garder.
C'est vrai qu'on a skip quelques questions, mais on peut finir justement sur cette, avant d'aller à pause, de parler d'être un Québécois, de jouer à Montréal. Puis j'ai le goût un peu de te poser la question. Pour toi qui as joué, quand tu allais dans ton coin, plus tu parlais peut-être de les équipes dans le coin de Rive-Sud de Montréal, Sainte-Julie,
Dans le temps, il y avait Montréal.
Ouais, j'ai joué, mettons, il y a eu la transition pendant la jouée, tu avais Junior de Montréal.
Ouais,
sinon, les plus proches, ça va être Drummondville, Victo,
de jouer à maison, entre guillemets, t'as su un peu c'était quoi, mais je sais que c'est pas le même comparable.
Écoute, c'est sûr, tu sais, je pense qu'on peut pas comparer aucun marché junior au Canadien.
Non, ça c'est clair.
c'est incomparable, puis je peux pas mettre dans le bot, là, je sais pas comment que c'est, puis ce serait facile de juger puis de dire, hey, tu fais abstraction de tout ça, puis blablabla, mais c'est pas ça. Fait que, tu sais, faut l'avoir vécu vraiment pour connaître cette réalité-là.
C'est exact. Clair.
Fait qu'on va à pause. On peut poursuivre après.
Tu veux rester avec nous?
Ah, j'ai pas de trouble.
On est avec Jason Hood, ancien joueur des Remparts de Québec. Et, on va poursuivre cette entrevue tout de suite après la pause publicitaire. Vous écoutez Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3.
On esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons le monde pour black. Hey yo! Appelle-moi la DM, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
My mom mama mad at me, I know I fucked up big. My girl mad at me, I know I fucked up big. What's love? I guess I'll never understand. Every time I say sorry, I do that shit again. Check, 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 I made a promise that I would never leave you stressed, I would be honest. I should've never sent that text, I would be honest. I'm sorry for the things I said, I would be honest.
Won't you think about you and I? Just grab my hand and look me in the eye. Look, this ain't something you should decide. This ain't something that you should decide. Won't you think about you and I? Just grab my hand and look me in the eye. Look, this ain't something you should decide. This ain't something that you should decide.
De retour à Tête d'Hockey, on est toujours accompagné par l'ancien joueur des Remparts de Québec, Jason Hood. On en a parlé un petit peu du coaching. T'as mentionné un petit peu Tourigny là, avec Rouen, qui est maintenant entraîneur-chef là, des Coyotes de l'Arizona dans la Ligue nationale. Mais t'as eu Patrick Roy aussi comme entraîneur-chef. T'sais, comment on aimerait ça te poser quelques questions là-dessus. T'sais, comment c'est quel genre de coach, Patrick Roy? C'est-tu un teacher? C'est-tu un professeur? Ou c'est plus un coach qui va sur l'émotion? T'sais? Puis aussi, comment tu comparerais ces deux gars-là? T'sais, Patrick Roy, c'est une légende du hockey. Il a été entraîneur-chef dans la Ligue nationale aussi avec l'Avalanche il y a quelques années. Tourigny qui est maintenant dans la Ligue nationale. Comment tu compares un petit peu le style de coaching? Là?
C'est intriguant. Hein? Le phénomène est intriguant.
Ouais,
c'est deux têtes d'hockey.
Absolument. C'est deux coach très différent.
Okay.
Vraiment, là, c'est vraiment deux coachs très différents.
Avant que tu commences, moi, ouais, je dirais Tourigny est peut-être plus mental, puis Patrick Roy plus sur le feeling.
Ça ressemble,
ça ressemble à ça.
Tourigny est vraiment un enseignant.
Ouais.
C'est un enseignant, il connaît. Puis, tu sais, je vais utiliser certains thèmes, parler d'un, c'est pas que l'autre est pas là du tout.
Ouais, ouais, ouais.
Je vais faire attention aussi, là. Patrick, c'est un gars d'émotion. C'est un gars qui a gagné à tous les niveaux. Mmh, ouais. On connaît la carrière qu'il a eu dans la Ligue nationale.
Ben
fait que quand il parle avec ses tripes, il parle avec ses émotions, puis t'es feel quasiment, là, tellement qu'il est dedans. Là, fait que... Puis Tourigny, c'est un enseignant, comme j'ai dit, incroyable. Là, puis il a pas, vraiment pas le bagage à Roy, mais maintenant, avec la carrière qu'il a eu comme coach, autant junior que dans le championnat mondial aussi, il était beaucoup,
ouais,
avec Team,
ben oui,
Canada,
c'est ça,
il est rendu
dire
dans la Ligue nationale. Lui aussi, là, il est rendu avec un bagage incroyable.
Mm-hmm.
Comme je disais, c'est deux entraîneurs totalement différents. Je dirais que je suis content, tu sais, avec du recul, je suis content d'avoir eu deux années avec Tourigny. Pour après aller avec Roy.
Oui, commencer avec un entraîneur qui est intense comme Patrick Roy, des fois ça peut être intimidant,
c'est
pour un
sûr,
jeune joueur, c'est
exactement
sûr.
Exactement, puis il peut être très dur envers ses joueurs. Autant que Tourigny peut l'être, mm-hmm, c'est deux approches complètement différentes.
Ouais.
Roy peut être très dur envers ses joueurs aussi. Je suis content de l'avoir eu en tant que vétéran, si on peut dire. Tu sais, mais c'est pas
ben
tant
non,
que ça,
c'est
deux
sûr,
ans,
c'est
mais
sûr,
rendu à 19 ans dans le junior, t'es un vétéran.
Ouais. Puis, tu sais, Tourigny, on regarde sa carrière d'entraîneur, là, tu sais, il a commencé en 2003-2004 avec Rouen en tant qu'entraîneur-chef. Il a été là pendant pratiquement 10 ans.
Mm-hmm.
Après ça, assistant pendant 3 ans dans la Ligue nationale avec l'Avalanche du Colorado, avec Roy, puis
ouais,
une année avec les Sénateurs. Revenu un an dans le Q avec les Mooseheads.
De quelle année, ça, avec les Mooseheads?
Avec les Mooseheads, c'est l'année...
C'est pas McKinnon, là.
Non, c'est l'année de Ishier.
OK.
C'est l'année de Ishier, donc mm-hmm, il a été entraîneur pour Ishier. Puis ensuite de ça, 3 ans dans la Ligue de l'Ontario avec les 67s d'Ottawa,
ouais,
pour ensuite revenir dans la Ligue nationale. Donc, mm-hmm, tu sais, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements de la,
ouais,
Ligue junior à la OHL, la Ligue, mm-hmm, tu sais, puis aussi,
je
tu l'as mentionné, le tournoi mondial junior aussi, mm-hmm, tu sais, c'est pas rien être coach.
Non, il était là pas en tant qu'head coach tout le temps, mais il était
non,
là longtemps
c'est ça,
avec
c'est
Team Canada.
Ça, tu sais, ça, c'est vraiment mm-hmm, cool, tu sais, d'être là. Puis toi, personnellement, tu sais, ta relation avec ces deux coachs-là, c'était comment? T'sais, c'était quoi les attentes? T'sais, comment t'as vécu ça au niveau personnel?
Je pense que c'est important de le dire. T'sais, Patrick, avec qui est connu,
ouais, ouais,
il peut pas agir de la même façon. Puis c'est vraiment pas qu'il veut pas. Il ne peut pas être de la même façon avec ses joueurs, avec le public, qu'un gars comme Tourigny. Tu sais, je veux dire, Patrick est un... Il y a une image, là, son, je peux le dire comme ça.
Ben oui, là, il y a une notoriété.
Pas, exact. Fait que, tu sais, il peut pas être si. Ben, pas qu'il peut pas être proche, mais tu sais, moi, je me souviens d'aller au bar avec Tourigny qui est là ouais. avec nous autres. Tu sais, je veux dire, Patrick peut pas faire ça ici
non,
à Québec.
Non,
c'est
serait,
totalement
ben oui,
comprenable.
Ben oui, ben oui, ben.
Fait que la relation veut pas d'un avec l'autre est très différente. Fait que ça fait un peu que Tourigny était plus proche de ses gars que Roy, mais il fait vraiment bien, Patrick. Là. Il, je pense qu'il est rendu habitué de jongler là-dedans.
Ben oui, c'est
pas.
Sûr.
Fait qu'il était
peut-être une
bon.
Dernière année, qui sait.
Ben, je pense qu'il l'a annoncé.
Ouais.
Je me trompe pas. Je pense qu'il est en train de faire le chemin à Simon Gagné. Là. C'est
ouais.
le
ouais,
moi
c'est
que
ça.
Je le vois.
C'est
j'ai
ça,
aucun
c'est
scoop
ça.
À donner en bon sens. Je suis complètement déconnecté.
Non, c'est vrai
de
qu'il
ça.
L'a comme annoncé, mais on sait jamais. Il annonce son départ, il est revenu.
Ouais. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est pas évident. Puis ça, c'est un bon point que tu amènes. De, mettons dans la Ligue nationale ou au niveau supérieur, les coachs, normalement, ils restent là quand même assez longtemps, puis les joueurs aussi. T'sais. Mm-hmm. Là, t'es dans la Ligue junior majeure du Québec, les gars, ils restent quoi, 2, 3, 4 ans maximum?
Ouais, c'est pas rare que tu changes d'équipe.
Exactement, c'est ça.
Il y en a qui arrivent et qui repartent aussi
c'est
vite.
Ça,
là,
c'est
y
ça.
Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans
c'est
le junior.
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, encore une fois, on veut pas blesser personne, si Patrick ou André écoute là, mais selon toi, c'est quoi pour toi, c'est quoi le style de coaching qui va mener à du succès? C'est-tu un mélange? C'est-tu un hybride entre les deux? C'est selon toi, c'est quoi, non seulement toi au niveau personnel, qu'est-ce que tu as préféré, mais globalement, tu penses que c'est quoi la meilleure façon de faire? Si toi, tu étais coach, comment tu ferais? C'est quoi que tu ferais? C'est un peu ça ma question.
J'ai pas la notoriété à Patrick
Roy.
Non,
ça, c'est certain.
Ça? Non, mais je reste, c'est vraiment un hybride. Là. Je pense que c'est, en tant que coach, c'est de, aussi de t'entourer d'une équipe complète. Là. Oui, on parle souvent des head coach, mais ils ont toute une équipe là, avec eux autres. Avec Patrick, tu n'as rien qu'à penser à Nicole Bouchard qui est super impliquée. C'est probablement qu'un autre plein de monde ne connaisse pas, mais qui est ultra impliqué avec lui, autant quand j'étais là qu'aujourd'hui, que là, tu sais, là, il est avec Simon Gagné, puis tu sais, je peux pas toutes les nommer, là, mais Tourigny, c'est la même chose, mais il y a pas une personne, une tête qui peut gérer une équipe autant junior que même Ligue nationale, c'est
non,
encore
c'est,
pas
c'est,
ça,
c'est
ça. Fait que c'est vraiment de s'entourer, puis de connaître aussi ses forces, ses faiblesses, là, tu sais. Je pense qu'autant André que Patrick, ils sont très conscients de leurs forces, leurs faiblesses, puis ils vont s'entourer du monde pour les aider dans peut-être leurs lacunes, si on veut, en guillemets.
Absolument. C'est super intéressant. Écoute, tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, les gars avec qui t'as joué, contre qui t'as joué. Tu sais, c'est qui les gars, que ce soit avec qui t'as joué ou contre qui t'as joué, là, qui te saute vraiment à l'esprit. Là. Tantôt, tu l'as mentionné avec McKinnon, c'était vraiment pas le fun quand il a barqué sa glace parce que c'est un gars qui était vraiment à un autre niveau. Y en a-tu d'autres qui te sautent à l'esprit là, un peu dans le même moule? Là?
Ouais, ben, tu sais, écoute, honnêtement, c'est le premier, je t'aurais dit, là, McKinnon, c'était un phénomène. Puis avant qu'il arrive dans le junior avec Halifax, on revient encore, j'étais avec les Huskies et on était dans la cave.
Ouais.
Donc, Tourigny espérait clairement avoir le premier choix. Là.
Ben
fait
oui,
que,
ben oui.
La première année qu'il est arrivé, il avait 16 ans, puis c'était un homme.
Ouais.
Ses premiers coups de patin, tu sais, mais voyons, ça n'a pas de sens. Puis après ça, il jouait avec Drouin. Honnêtement, dans ces années-là, les deux ensemble, Drouin, tu faisais, ils sont vraiment solides ensemble.
Ben oui.
Puis, mettons, l'autre nom qui me pop, c'est Sean Couturier.
Mm-hmm.
J'ai joué contre ma première année quand j'étais avec les Huskies à 17 ans. Probablement qu'il avait 18, je me trompe pas. Ou, il était repêché cette année-là. Il jouait avec Palat.
Ouais.
Puis, il a pas rejoué après parce qu'il a joué tout de suite avec
les Flyers.
Puis, c'était quelque chose. Puis, c'était très différent de McKinnon, mais Couturier, c'est un gars complet. Là. De A à Z, là, 200 pieds, puis autant offensif que défensif.
Ah, pis c'est comme ça qu'il est vu aussi aujourd'hui dans la Ligue nationale.
Exact,
un gars qui joue des deux bords de la patinoire.
Exact. Puis, il était. Mettons, Junior, il était une coche de plus offensif, si on veut, même s'il est très bon offensivement avec les Flyers. Mais là, ça n'était désagréable lui aussi.
On parle beaucoup des joueurs, puis c'est des attaquants, c'est des marqueurs. Est-ce qu'il y a des défenseurs ou même des gardiens de but qui te sont restés à l'esprit? Ça peut être ceux qui étaient très bons en junior qui n'ont pas été après, ou ça peut être d'autres qui ont connu du succès dans la Ligue nationale?
Je me souviens qu'on avait parlé l'autre fois, puis je n'ai comme pas qui me pas
des défenseurs.
C'est des marqueurs de but hein, qui nous restent à l'esprit.
Ben, tu sais, veux pas, j'étais un attaquant défensif.
Ouais.
Fait que tu sais, je faisais face à ces gars-là. Mm-hmm. Fait que je portais plus attention à eux aussi. Tu sais, je me souviens d'avoir joué contre Nathan Beaulieu.
Okay.
Mm-hmm. Il y a probablement d'autres gars super bons, mais tu sais, qui me pop autant que des gars comme McKinnon, que Couturier, moins, là, veut pas autant gardien que
on dirait que dans la GMQ, ils sont pas reconnus pour leur gardien. Je sais pas si c'est moi, Raph, je sais pas ce que t'en penses.
Ben, ça l'a été un bout. Il y a un bout, ça l'a c'est été, tu sais, quand on pense au Fleury, puis oui, ça fait longtemps, mais tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, le gardien de but qui était hot dans le Q, c'était Olivier Roy, puis okay. Il gaulait pour Cap-Breton, si je me trompe pas. Puis lui, okay. Il avait beaucoup d'espoir. Mais tu sais, si je regarde, mettons, le défenseur de l'année dans la Ligue junior majeure, dans tes années, tu sais, je vois Jérôme Leduc, je vois Simon Després, qui a été quand même qui a été un choix quand même assez élevé des Pingouins, là, en 2009. J'ai vu Kevin Gagner, mais tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de noms. Tu sais, on regarde un petit peu plus haut, là, il y a Samuel Girard, Thomas Chabot.
Okay.
Tu sais, il y a quand même des noms intéressants. Mais j'ai une question par rapport à ça, justement. On revient avec les Moussets, là. Les Moussets, c'est quand même une équipe qui a eu beaucoup de joueurs qui vraiment talentueux qui sont passés au niveau suivant. Tu sais, t'as mentionné McKinnon, Drouin, il y a aussi Nicolas Ehlers qui joue maintenant pour les Jets de Winnipeg, Nico Hischier qui joue pour les Devils, le capitaine des Devils qui a été repêché premier au total en 2017. C'est-tu un hasard? Y a-tu quelque chose là-bas qui... C'est ça. Ben, c'est quoi qui fait la différence pour cette organisation-là?
Ben, mettons, je dirais pas juste Halifax, là. Je pense qu'on peut englober style Québec, là. Ils ont quand même eu des solides joueurs, là. T'sais, Kucherov, quand il a été repêché, là, c'est parce qu'il voulait venir à Québec. Il voulait pas aller à Val-d'Or.
Non, ça je comprends.
T'sais, t'as Rimouski. Des gros Rimouski marchés. Est
connu,
Ouais, des
c'est
gros,
surtout...
des gros marchés comme ça, veut pas, vont attirer des gars. Puis des joueurs de cette trempe-là vont, t'sais, ils peuvent, je pense pas qu'ils peuvent le dire ouvertement, mais ils vont choisir leur destination.
Ouais.
Exemple, super facile, Anthony Duclair, il a joué avec les Remparts de Québec, avait dit ouvertement qu'il voulait aller jouer dans les universités américaines.
Oui, je m'en rappelle de ça.
Les Remparts l'ont repêché genre 2e, 3e ronde. Toutes les équipes se disaient, il vient pas, on le repêchera pas. Uh-huh. Fait que les Remparts le repêchent plus tard, puis finalement, il vient l'année d'après. Pourquoi? Parce que c'est à Québec.
S'il s'était fait repêcher par Val-d'Or, il serait sûrement pas venu jouer dans le Q.
Exact. Ouais. Je sais pas comment ça s'est fait, mais probablement que Patrick Roy, il a lâché un coup de téléphone où il a dit « Viens souper à la maison », puis il y avait des bons arguments. Là,
quand Patrick Roy, il t'appelle puis il dit « Hey, sérieux, nous autres, on aimerait vraiment ça t'avoir dans l'équipe. » Je pense que ça pèse un peu plus en balance.
Exact.
Ça,
on a parlé vite un peu tantôt de l'école, mais facilement, j'étais capable de voir une différence entre Rouen et entre Québec. Niveau encadrement.
OK, oui, je comprends.
C'est pas qu'ils veulent pas bien le faire. T'sais, ils font avec les ressources qu'ils ont à Rouen, mais t'arrives à Québec, c'est un autre marché complètement.
Ah, c'est
c'est un encadrement qui est beaucoup plus présent. Fait qu'ils disent, c'est qu'est-ce que tu veux faire, Anthony? Pourquoi tu veux aller à l'université américaine? On va t'aider.
Okay.
On va faire ce que tu veux.
Ah, je comprends. C'est super intéressant. Puis là, on approche de la fin.
Ouais.
Une question un petit peu plus plate. Là. Je suis sûr que tu as fait la paix, t'as fait la paix avec ça au cours des dernières années. Mais tu sais, comment tu t'es rendu compte ou ça a été quand, toi, la réalisation pour toi que, tu sais, le hockey, c'est peut-être pas ça qui va me faire vivre dans la vie. C'est quand que tu as eu cette réalisation-là. Puis aussi, comment tu t'es... comment t'as passé par-dessus ça, si ça a été difficile pour toi d'arriver à cette réalisation-là? Comment tu t'es un peu renouvelé là, en tant que personne? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme loisir? Comment ça s'est passé pour toi, tout ce processus-là?
Oui, puis honnêtement, ça me fait plaisir d'en parler parce que je souhaite tout le bonheur aux jeunes joueurs de hockey qu'on a, mais la plupart, tu sais, ça ne marchera
pas. C'est...
Fait que c'est sûr qu'un coup que tu passes à autre chose, c'est plus difficile. Un coup que tu te rends compte, je veux dire, que ça ne marchera peut-être pas, c'est plus difficile. Moi, mon année avec les Remparts complète là, à 19 ans, là, j'ai une très, très bonne première moitié de saison. Ça a super bien été. Au-delà de moi-même, mes attentes. Okay. Deuxième moitié, beaucoup plus difficile. Fait que, bon, aux alentours de Noël, j'avais eu des entrevues avec des équipes de la NHL pour un possible trial. Fait que,
avoir des noms.
Ouais. Ben, ça, je savais pas ça.
Ouais, avec San Jose puis LA.
OK.
Fait que les deux de la Californie, c'était cool.
Aller aux pratiques en Gogun le matin,
ouais,
c'est quand
exact.
Même un.
Fait que, tu sais, veux pas, quand tu rencontres ces équipes-là, puis tu sais, cette année-là, il y avait plein de gars qui se faisaient rencontrer. Ils rencontraient quasiment toutes les équipes. Là, c'est après les games, souvent, ils mettaient les numéros sur les tableaux, les numéros des joueurs. Puis, à un moment donné, pourquoi mon numéro, il est là? Oui, ça sent trompé. Fait que finalement, bref, rencontre ces équipes-là. Fait que ça donne un peu d'espoir. Finalement, deuxième moitié de saison moins bonne, pas d'invitation, puis c'était bien correct. C'est rendu à 19 ans que là, je me suis fait échanger à Sherbrooke, que j'avais pas la saison, j'espérais. C'est là que je me suis dit, gars, c'est un choix que j'ai fait. Est-ce que j'aurais pu pousser puis dire, hey, j'essaye à fond? Probablement, ça aurait-tu marché? Probablement pas, tu sais, je le sais pas, mais il aurait fallu que je passe par un 15 Coast, sur la Ligue américaine, tu sais, gravelé.
Ouais.
Il y en a qui le font, puis c'est bien correct. Moi, c'est un choix que j'ai fait que, écoute, rendu là, ça me tente pas de mettre les efforts que ça prend, parce que ça prend énormément d'efforts.
Carrément, puis il faut passer du monde, puis c'est compétitif. Pis
exact,
c'est
exact.
C'est clair. Est-ce que il y a déjà eu le thought, parce que moi, tu sais, des fois, j'en parle avec Félix, puis moi, c'est quelque chose que... À chaque fois qu'il y a une situation comme la tienne, exemple, je pense à ça, je me dis, crème, allez jouer un petit 2-3 ans en Europe. Allez, ouais. C'est une option qui t'est passée par la tête?
Absolument. Oh, oui, vraiment, parce que dans ce temps-là, j'avais un conseiller, on va dire. C'était pas mon agent, oh, oui, là, non, j'avais rien signé. C'était un conseiller que j'avais des options. J'aurais pu aller jouer en Europe. Puis, souvent, on a l'image de l'Europe, c'est ultra fort, mais des ligues en Europe, t'en as une puis un autre. Là.
Ouais.
Fait que j'avais quand même des options pour aller jouer en Europe, des bonnes ligues, aller faire un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. J'ai fait le choix de rester ici pour le domaine que je voulais aller étudier. Puis ça se fait pas à l'université. Fait que je pouvais pas aller jouer universitaire.
Bon.
Fait que, parce que j'avais été approché par des universités aussi. Fait que là, j'étais comme pris un peu. Puis à ce moment-là, moi, je me dis, je veux jouer encore. OK, là, tu sais, c'est pas fini.
Mm-hmm.
Fait que j'ai été repêché dans la Ligue nord-américaine. J'ai joué un an dans la Ligue nord-américaine en commençant les études dans lesquelles je voulais aller. Mm. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi.
Bon. OK.
Fait que, tu sais, c'est un niveau vraiment bon, honnêtement. Je m'attendais à moins bon que ça. Dans la Ligue nord-américaine, j'ai quand même fait un saut. Là. Il y a des gars vraiment, vraiment bons qui ont joué longtemps, autant en Europe que dans la Ligue américaine.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette ligue-là, nous, les clubs qu'il y a.
Déménage à chaque année.
Ça change tout le temps.
Il y en a à Saint-Georges.
C'est ça. Moi, j'ai joué pour les Marquis de Jonquière puis le Cool FM de Saint-Georges. Mm-hmm. Après ça, tu as. Dans le temps, là, t'avais Sorel. Sorel sont encore là, je pense.
Lévis ou une.
Non.
Même pas.
Non. T'as Thetford Mines après ça.
Puis il y avait le Radio X dans le temps. Tu sais, le Radio X de Québec dans le temps, c'était ça.
J'ai joué là un an. J'ai dit, gars, ça marche pas. Autant risque de blessure que c'est beaucoup de voyagement. Tu sais, là, je veux m'aligner un peu. Je veux aligner mes flûtes pour ma vie, ma job, ma blonde, mes enfants.
Ben oui.
Passe à l'autre chose. Fait que à 21 ans, j'ai fini ma saison. J'avais signé un contrat d'un an. Même si pendant la saison, je m'étais dit, c'est pas pour moi. J'ai fini mon année. Puis après ça, j'ai décidé de passer à l'autre chose. Puis là, je me suis concentré à temps plein dans mes études. Puis j'ai tourné la page sur le hockey.
Comment est-ce que la transition s'est faite? Parce que juste avant d'entrer en onde, tu nous parlais à quel point ça prend du temps. On a parlé, je pense, à travers l'entrevue, du nombre de temps que tu passes sur la route, dans le bus, du temps de pratique que tu mets. Puis en plus de ça, il faut que tu trouves du temps pour avoir une vie aussi. Comment ça s'est fait, la transition de sortir de ce tourbillon-là, d'être dans le hockey tout le temps? Est-ce que tu trouvais que tu avais trop de temps libre ou comment ça s'est fait, cette transition-là?
Je me suis rembarqué dans un autre tourbillon, je dirais. Non, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, ça prend tellement tout notre temps que j'ai que été habitué à ça dans les dernières années. Puis, tu sais, je remonte avant, à l'automne, midget 3, midget espoir, et c'est vraiment beaucoup de temps.
Mais oui.
Fait que quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'étais dans mes études, à temps plein, j'avais une petite job, puis je me suis lancé dans le crossfit.
Mm-hmm.
J'ai tout le temps été un gars qui s'est entraîné beaucoup, même avec le hockey, j'adore l'entraînement, fait que je me suis lancé là-dedans, puis j'ai comme retrouvé un peu ce que j'avais perdu avec le hockey, autant la gang au gym, qu'on va s'entraîner ensemble, que je me suis donné une horaire qu'à telle heure, telle journée, c'est ça que je fais, je mélangeais ça avec l'école.
Mm-hmm.
Fait que je me suis lancé là-dedans, puis ça a comblé un peu la petite perte que j'avais là, en lâchant le hockey. Puis veux pas, c'est sûr, quand j'ai l'occasion de rechausser les patins, d'aller jouer avec des collègues de travail, c'est sûr que j'aime ça encore. Là, on peut pas enlever le hockey du petit gars.
Non,
là.
En effet, puis tu le mentionnais tantôt avec tes deux petits gars aussi, ça va venir éventuellement, ça c'est certain. Hein?
Ouais, d'après moi, je l'échapperai pas celle-là.
C'est bon.
On aura peut-être la chance de te voir comme coach, qui sait. Un jour.
Peut-être un futur.
J'aurais pas le choix
aussi. Ça se peut, ouais, en effet.
Bien, ce fut un plaisir, Jonathan Jason Hood, dis-je bien, de t'avoir reçu à Tête de Hockey. On aura peut-être la chance de se reparler, qui sait, un jour. Et, on va conclure cette entrevue avec une chanson. On y va avec la toute nouvelle chanson de Kenlo qui s'appelle Boss Lab. Puis, encore une fois, je te remercie. Puis je pense que Raphaël aussi, t'as aimé notre première entrevue à Tête de Hockey. Merci, Jason.
Ça fait plaisir.
bus, 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 bus. Oh yeah, tous ceux qui maïssent, moi je serais happy. Merci de nous donner ce trouble, de donner votre appui. Les eaux des égouts, des salomins publics redeviennent de la pluie. La nature est cyclique, on est back sur les sick shit. Les commandes, les six chiffres, on en fait des tapis. En billet de pain, puis on travaille en famille comme un business juif. À l'église évangélique, on priait pour le pasteur. Que le Seigneur lui procure un nouveau char, une maison pour sa soeur. Du V3 sur le Southside, à la rive nord du 418. L'image a pris comme du Boss Lab, puis assez de doigts pour le nombre de bagues. Oh wow, just wow, on aurait aimé que le monde puisse voir. La beauté dans l'œil de ceux qui regardent, c'est un échec d'essayer trop fort. Les temps sont durs, t'as rien pu y faire, tu finis à l'aube rivière. La nature est riche, l'argent est brun, puis l'argent est bleu et vert. Le succès est méconnaissable, la monnaie a payé cher. Ça serait déjà bon qu'on sache juste le nom du programme. Eux se demandent pourquoi on gagne, ils sont pas présents. Ils participent pas assez, ces mots-là sont pesants. Comme oh wow, just wow, ballon pang et puis les autres sports. Les étés j'ai pas rien fait d'autre, j'voulais juste jouer dans les espoirs. Les vrais artistes à la Kyrie, c'est Spedda et Super Marie. Mettre un crayon sur le tableau, c'est un original, c'est un faux. Wow, fuck ton cash, fuck ta crypto, fuck ton argent, fuck ton or. Nous ce qu'on veut c'est des œuvres d'art. Ça peut éclater n'importe quand. Fuck tes infos, ta connaissance. Nous ce qu'on veut c'est une bonne essence. Yes, it's juice pour le réservoir. Oh wow, just wow. La lune était rose comme un Ken Ball. Je l'ai vu deux fois durant la même session. J'étais dans le stew une vingtaine d'heures. Rose comme un swag à la dipset. Durant leur prime avant 2007. Plein de bombes durant baby boom. En direct d'un fucking genocide. Oh wow, just wow. Ça rentre par la peau, Billy Paul. Pendant que t'en rêves, pisse d'or. Shout out à Boss Lab, le city organique et digital. Yeah, avec tout et dans tout. De moi, le def is une planète pleine. Du whisky dans le cup. Yo, guess in Z, bro. Dans mon sang. Dans mon sang, j'prends ça, mais j'prends tout, bro. Ça va sûrement être une belle soirée. La porte de nos cœurs est débarrée. Ce qu'on fait, c'est des œuvres d'art. Relique à volonté, ça déborde du pamphlet. Hein? On attendra pas en fil. Notre tas, c'est un bon tas. Le trap, il vient pas d'Atlanta. Ça, c'est pas le old Canada, mais kind of. Yo, relax, bro. Shit way too hard, bro. Old Canada. Qu'est-ce que tu veux, bro? On est pas en même place, bro. Trop pas qu'il y a un bro facile, bro. Yo, c'est plus dans le tight, bro. Bichou, c'est dans le tight, bro. C'est sûr qu'on est tout bro, bro. Oh yeah, tous ceux qui maïssent. Moi, je serais happy. Merci de nous donner ce trouble, de donner votre appui. Les eaux des égouts, des salomins publics redeviennent de la pluie. La nature est cyclique, on est back sur les sick shit. Les commandes, les six chiffres, on en fait des tapis. En billet de pain, puis on travaille en famille comme un business juif. À l'église évangélique, on priait pour le pasteur. Que le Seigneur lui procure un nouveau char, une maison pour sa soeur. Du métro sur le Southside, à la rive nord du 418. L'image a pris comme du Boss Lab, puis assez de doigts pour le nombre de bagues. Oh wow, just wow, on aurait aimé que le monde puisse voir. La beauté dans l'œil de ceux qui regardent, c'est un échec d'essayer trop fort. Les temps sont durs, t'as rien pu y faire, tu finis à l'ombre et
vers... Vous êtes de retour à Tête de Hockey sur les ondes de Chiz 94.3. On a eu une longue entrevue, Raphaël. Finalement, on pensait faire juste une demi-heure, mais notre ami Jason Hood avait beaucoup de jazzettes, puis il nous a dit des petits secrets. Il nous a même dit qu'il y avait eu des entrevues avec les Sharks et les Kings.
Ouais.
Ben finalement, il n'a pas été repêché dans la Ligue nationale, mais on a eu beaucoup d'échos de ce qui se passait dans la LHGMQ, ben de ce qui se passait, du moins, il y a à peu près une dizaine d'années. Mmh. Et là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on voulait quand même vous parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. On va le faire par le biais d'un segment habituel. On parle des trois étoiles de la semaine. Raphaël, je te laisse commencer.
Ouais, absolument. Puis juste avant de commencer, je tiens à remercier Jason. Là, tu l'as mentionné un peu, mais c'était vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment eu du plaisir à l'entendre parler. Puis, tu sais, c'est un monde qu'on connaît pas nécessairement, tu sais, les dessous de la Ligue nationale.
mais c'est même junior majeur.
C'est aussi un milieu en le hockey en général où on peut pas trop en dire quand qu'on est dedans.
Exact.
Après, quand qu'on a plus d'attache, ben là on peut dire des secrets, on peut dire des trucs qu'on pouvait plus avant.
Exactement. Puis tu sais, on a eu beaucoup de plaisir. Puis Félix, je parle en ton nom aussi. Là, je suis certain que t'as apprécié. Puis c'est le début de d'autres entrevues pour Tête d'Hockey.
On l'espère. Mais puis merci encore, Jason.
Un gros merci. Puis comme tu l'as mentionné, on rentre avec les trois étoiles.
Voilà.
Notre troisième étoile de la semaine, il a été une des trois étoiles aussi là, il y a quelques semaines. On parle du joueur de centre des Coyotes de l'Arizona, Clayton Keller. C'est un peu la bougie d'allumage de cette équipe-là cette année. Là, une équipe qui a de la difficulté, là, mais tu sais, c'est les Coyotes, on le sait. Ils vont revenir éventuellement, mais présentement, c'est ça, Clayton Keller, avec 2 buts, 5 passes en 4 matchs cette semaine. La deuxième étoile, défenseur canadien. Défenseur étoile qui a une saison digne du trophée Norris cette année. On parle de Cale Makar qui a 2 buts, 5 passes en 4 matchs, dont un but en prolongation hier contre les Coyotes, l'équipe de Clayton Keller qu'on vient juste de mentionner en tant que troisième étoile.
Les Coyotes, ça va quand même bien là. On n'est pas sûr s'ils vont y aller pour la course de Bédard, mais comme on disait la semaine passée, ils ont 30 choix, je dis bien 30 choix au repêchage jusqu'en 2025.
En
donc,
effet.
On va entendre beaucoup leur équipe nommer des joueurs, mais je veux aussi que tu me parles d'un joueur qui a eu un dur début de semaine. En tout cas, de ces temps-ci, ça va pas super bien, mais on en a parlé aussi avec Jason de ce Russe qui ne cesse de nous impressionner.
En effet, c'est drôle. Ça fait un beau petit lien avec l'entrevue de Jason. T'as bien raison. On parle de Nikita Kucherov.
Et oui.
3 buts, 4 passes en 4 matchs pour 7 points. Là. 7 points en 4 matchs pour Nikita Kucherov. Le Lightning, ça va pas super bien ces temps-ci, mais Nikita Kucherov a une saison vraiment du tonnerre. Là, presque 100 points cette saison. Donc, on l'espère. On le connaît si bien à Montréal, hein, Nikita Kucherov.
Are you kidding me?
Ouais. Nikita Kucherov, notre première étoile de la semaine en tête.
La course aux séries est officiellement commencée.
Ouais, on voulait vous en parler un petit peu, mais disons qu'on voulait prioriser l'entrevue, là, c'est normal.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tête d'Hockey. Et ben, on vous parlera entre autres de cette course qui va faire les séries, qui aura aussi plus de chances d'avoir le premier choix au repêchage. On le sait que les Canadiens sont encore pour la course pour certains. Pour les plus réalistes, on a laissé ça de côté. On vous en reparle la semaine prochaine. Ça fait un plaisir, Raphaël.
Yes.
On se dit à dimanche prochain.
À la semaine prochaine.
Ciao!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
C'est quoi exactement du rock? De la musique d'une autre époque? Des sons...